Une entreprise, nous l'avons vu avec Zakaria, doit en permanence évaluer le rendement espéré et le risque de divers projets d'investissement qui s'offrent à elle. C'est une matière assez technique et je renvoie donc pour les détails au chapitre du livre. Je voudrais donner simplement ici le principe de cette évaluation des investissements. Et je souligne que ce qui est évalué ici, c'est le rendement espéré. En effet, tout investissement ne fait que promettre des revenus futurs. Qu'il s'agisse d'un investissement industriel, dans une nouvelle usine, dans un nouveau produit, ou qu'il s'agisse d'un investissement financier, tel que l'achat d'une obligation, d'une créance, d'une action. Tout investissement comprend une part de risque. On attend un certain rendement, mais ce rendement, on le sait, ne sera pas exactement ce qu'on attend. Il est affecté d'un certain risque qu'on représente par une distribution de probabilité. Un investisseur doit donc évaluer deux choses, le rendement moyen espéré et puis la façon dont se disperse la distribution de probabilité de rendement autour de cette moyenne et qui va être le risque. L'intérêt de cette opération est de pouvoir comparer les investissements entre eux. Vous avez une somme de monnaie à investir, soit dans un projet industriel, soit dans un autre projet industriel, soit dans un projet de négoce, comme Zakaria, soit sur un marché financier, en achetant une obligation ou une action. Et vous voulez comparer le rendement espéré de ces investissements et vous voulez comparer aussi leurs risques. Mais commençons par le rendement espéré. Partons de ce schéma. Un investissement, c'est une dépense garantie à l'instant zéro. Elle est vers le bas puisque c'est une dépense en rouge. Vous avez là trois types d'investissements. En bleu, un investissement industriel. Cet investissement dans des machines, des logiciels, dans du travail va procurer un revenu qui va croître, se stabiliser, puis décroître quand les machines seront entièrement épuisées. Vous pouvez aussi consacrer cette même somme I à l'achat d'une obligation qui va par exemple vous être remboursé à la fin, on dit une obligation in fine, à l'année N, avec des intérêts. Et vous pouvez enfin placer la même somme dans une obligation qui va vous être remboursée avec ses intérêts sous forme d'une annuité constante en orange. Voilà nos trois types d'investissements. Il faut pouvoir comparer leur rendement espéré. Pour faire cela, il faut ramener tous les flux futurs attendus de l'investissement à leur valeur actuelle. C'est-à-dire qu'il faut les ramener à leur valeur en temps zéro. Et cette valeur actuelle de tous les flux à recevoir dans le futur, il faut la comparer avec l'investissement initial garanti fait au temps zéro. On utilise pour ce faire la technique de l'actualisation dont vous verrez le détail dans le chapitre. Elle est fondée sur un comportement supposé rationnel pour un acteur économique et qui se résume en « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». C'est-à-dire que si vous recevez une somme de 100 aujourd'hui, il faudra vous donner au moins 130 dans 3 ans pour que cela vous soit équivalent. Le taux d'actualisation implicite est ici de 10% par an. De cette manière, au calcul, vous verrez comment le taux de rentabilité interne espéré d'un investissement. Il permet de comparer entre eux les investissements du point de vue de leur rentabilité espérée. Il permet aussi de comparer la rentabilité d'un investissement à ce que cela vous coûterait en intérêt, par exemple, de le financer par une dette ou à ce que cela vous coûterait en résultat net attendu par vos actionnaires de le financer par une augmentation des fonds propres. Ce calcul permet donc de comparer le rendement attendu d'un investissement au coût attendu de son financement. Ensuite, il faut évaluer le risque d'un investissement. C'est simple. Le risque est mesuré par l'écart type de la distribution de probabilité du rendement de l'investissement. Vous voyez sur ce graphique deux investissements dont l'espérance de rendement est de 10, c'est la même, mais dont l'écart type est différent. L'un, en rouge, est moins risqué que celui qui est en bleu, car la probabilité que la rentabilité réelle soit dans la fourchette de 9 à 11%, c'est-à-dire de 10 en rendement espéré moyen plus ou moins 1%, cette probabilité est plus forte dans le cas de la distribution en rouge que de la distribution en bleu. En revanche, la probabilité de rentabilité exceptionnelle, à droite du schéma, est plus forte avec l'investissement bleu. Reste ensuite à se demander quelle est l'attitude à l'égard du risque d'un investisseur. Certains investisseurs sont adverses au risque, d'autres aiment le risque et d'autres encore sont neutres au risque, indifférents au risque. Nous allons faire un petit test. Je vous projette là trois types d'investissements. Je vous propose d'investir 100 aujourd'hui en T égale 0. Le premier investissement vous rapporte 111 dans un an avec une probabilité de 1,5 et 109 avec une probabilité de 1,5 également. Le deuxième et le troisième investissement vous rapportent les sommes que vous lisez là avec les probabilités que vous lisez également là. Très spontanément, répondez en vous-même quel est l'investissement que vous choisissez. Ceci est une expérience économique. Je teste votre comportement devant le risque. Le prix Nobel d'économie 2017 a été donné à un chercheur qui a développé ce genre d'expérience. Mais naturellement, celle-là est très élémentaire. Elle montre que vous avez des attitudes différentes devant le risque. Dans beaucoup de publics d'étudiants, le groupe se divise en trois. Un tiers choisit le premier investissement, un tiers le second, un tiers le troisième. Or, ces investissements ont la même espérance de rendement. Ce rendement est de 10%. La somme espérée est de 110. Mais évidemment, les écarts types sont très différents. Le premier est beaucoup moins risqué que le dernier. Certains aiment le risque. Ils sont prêts à perdre dans 97% des cas, à condition qu'ils gagnent le gros lot dans 3% des cas. Il y a même des gens qui jouent avec des espérances de gains négatives. Tous ceux qui jouent à la loterie, quand l'organisateur de la loterie prend une partie des mises, l'espérance de gain est inférieure aux mises. Mais vous risquez de tirer un très gros lot. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui sont neutres au risque, en particulier tous ceux qui peuvent se couvrir contre le risque. Il y a enfin des gens qui sont adverses au risque. C'est-à-dire que pour eux, si le risque d'un actif est plus grand que celui d'un autre, alors son rendement doit être supérieur pour qu'ils les considèrent comme équivalents. On peut constater sur les marchés financiers, en classant tous les investissements possibles selon leur risque passé croissant, c'est-à-dire selon la volatilité passée de leur rendement croissante, et en pointant en ordonnée leur rendement passé moyen, dans la réalité des marchés, cette courbe est croissante, ce qui signifie que les investisseurs sont en moyenne adverses au risque. Pour qu'un actif soit acheté, s'il est plus risqué qu'un autre, il faut que son rendement espéré soit supérieur. Cependant, n'oublions jamais qu'en la matière, il s'agit d'anticiper l'avenir, non de constater le passé, qui n'est qu'un guide assez peu sûr de ce qui peut se passer.